J'ai une triste nouvelle ce soir. Nicolas m'a téléphoné et m'a annoncé le décès de notre sœur Issa, la femme du docteur Issa. Alors, je n'ai aucun moyen de le contacter. J'ai perdu son mail, j'ai perdu son numéro de téléphone. Et voilà. Tu l'as ? Ah, c'est bien. Comme ça, on va pouvoir le contacter, lui dire toutes nos... Pardon ? Sinon, tu peux demander à ton père aussi. Ils l'ont enterré cet après-midi. Et voilà, c'est bien triste. Elle n'était pas vieille. Hein. C'est triste, triste. Voilà. Mais c'est toujours triste. Hein. Mais enfin, elle est vers le Seigneur. C'est une enfant de Dieu. Et ça, c'est la seule consolation qu'on a. Nicolas me dit que depuis qu'il est là, en Europe, il y a déjà 3 personnes qu'il connaît bien qui sont décédées. Il faut dire qu'il connaît beaucoup de monde aussi. Mais quand même, c'est triste. Voilà, je vous demande donc de prier pour le docteur Issa, c'est un ami, quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé, voilà. Et si tu m'entends, docteur Issa, Dieu te bénisse, ainsi que tous ceux que tu aimes. Jérémie, chapitre 31, verset 15, s'il vous plaît, avec moi. J'ai passé le film « La plus grande histoire jamais contée » l'autre après-midi à notre frère Michael. Et dans ce film, à un moment donné, on entend cette prophétie, ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée. Amen. On peut s'asseoir. Je voudrais aborder ce soir un sujet de consolation, un message d'espoir. C'est pas forcément pour les frères et sœurs de la communauté, mais c'est aussi pour tous ceux qui viennent et qui écoutent nos prédications sur le net. Et je voudrais leur apporter un message d'espoir. Je voudrais m'adresser à tous les parents qui ont le cœur brisé parce qu'ils ont fait de leur mieux pour élever leurs enfants dans ce qui est juste, avec amour, avec dévouement. Et ils sont désespérés parce que leurs enfants sont rebelles ou leurs enfants se laissent entraîner dans des chemins du mal, dans les chemins de la destruction, et ils sont peinés. Et quand je pense aux parents qui ressentent cette angoisse profonde au sujet de leurs enfants qui marchent dans le chemin de la perdition, je pense aux paroles de Jérémie, on entend des cris à Rama, Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée. Alors nous connaissons tous le texte de Jérémie 31, 15 que nous venons de lire, mais vous les parents, est-ce que vous connaissez la suite de ce texte? Et je pense que ça serait bien que je vous le lise. La suite de ce texte, au verset 16, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. » Amen. Amen, amen. Au départ, c'était pas un verset biblique, c'était une parole de consolation qui venait de Dieu. Et je pense que si Dieu dit ça, nous pouvons aussi nous approprier ces paroles. Une parole que Dieu donne aux parents qui pleurent sur leurs enfants. À tous les papas, à toutes les mamans, à tous les grands-papas, à toutes les grands-mamans qui voient leurs enfants qui vont dans les voies de la perdition, qui abandonnent les voies de Dieu, il dit, retiens tes pleurs. Il dit ça au papa, aux mamans, à tous ceux. Et il dit, retiens tes pleurs, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Alors c'est vrai, Dieu console et Dieu promet. Cependant, l'esprit de prophétie qui est en moi me pousse à vous dire quand même quelque chose, je dois le dire. Vous devez enseigner vos enfants à comprendre et être sûr qu'ils ont compris la doctrine du repentir, la doctrine de la foi en Jésus-Christ, du baptême d'eau, du don du Saint-Esprit. Il faut être sûr qu'ils ont compris. Les parents doivent enseigner leurs enfants. Vous ne devez pas compter sur le pasteur. Bien sûr, j'enseigne. Mais vous devez faire vous, c'est à vous que Dieu a confié les enfants. Alors, en tant que papa et en tant que grand-papa, je vous dis, j'accepte ces paroles que nous venons de lire comme venant du Seigneur. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de la parole, j'exhorte aussi les parents à suivre les recommandations que je viens vous donner consciencieusement, aussi consciencieusement que vous le pouvez. Les esprits de nos enfants sont venus dans ce monde avec leur personnalité propre. Certains enfants auraient posé des problèmes à n'importe quel parent, dans n'importe quelle situation. Et aussi, il y a d'autres enfants qui auraient été une bénédiction, une joie pour presque n'importe quel parent. Que vos enfants suivent ou non les voies de Dieu n'est pas votre totale responsabilité. Mais il doit y avoir une réussite que Dieu voit. Et la réussite pour les parents, c'est de s'être sacrifié pour les enfants. C'est de s'être efforcé de faire de leur mieux dans la situation familiale. Et cela, c'est ça, la réussite des parents aux yeux de Dieu. Quoi que les enfants ensuite fassent, si les parents ont été consciencieux pour leur apporter du mieux qu'ils pouvaient. L'autre jour, je parlais avec la maman de Liliane. La maman de Liliane, c'est un sacré numéro. C'est une bonne femme terrible. Elle est très sympathique, très vivace. Et j'y demande, alors, depuis quand est-ce que vous connaissez Jésus? Et elle me dit avec son accent, je trouve que c'est un accent yiddish. J'arrive pas à l'imiter, mais elle me dit, mais j'ai toujours connu Jésus. Et puis sa fille dit, mais enfin maman, tu t'es bien convertie à un moment donné. Rappelle-toi, tu m'as raconté avec les Américains. Enfin, tout ça, c'est des détails. Ce qui est important, c'est qu'elle dit, mais ma fille, tu sais mieux que moi. Je t'ai dit que j'ai toujours été dans les choses de Dieu. Même quand je vivais chez ma grand-mère, parce qu'elle a dû vivre chez sa grand-mère pendant la guerre, eh bien, elle dit, le plus souvenir le plus loin que j'ai, c'est de voir ma grand-mère avec sa Bible sous le bras venir vers moi pour prier et pour lire. Et ensuite, elle allait prier dans la chambre à côté avec mon frère, avec sa Bible. Et voilà, c'est quelque chose qui est resté gravé dans le cœur de cette dame et ça a fait son cheminement. Et elle est restée avec ces choses-là parce que, tout jeune déjà, cette grand-mère, elle faisait vraiment ce qu'il fallait. Personne, mes frères et sœurs, ne peut mesurer les profondeurs de l'amour des parents et des grands-parents pour leurs enfants. Personne ne peut mesurer. C'est une relation qui ressemble à rien d'autre. À rien d'autre. Je dirais même que l'amour parental dépasse même l'instinct de survie, de conservation. C'est quelque chose de très fort. Et l'amour des parents pour un enfant, c'est quelque chose qui est continuel. Ça ne s'arrête pas. Ça va au-delà du chagrin, ça va au-delà des déceptions. Que vos enfants vous aient déçus, voilà, d'accord, vous êtes dans le chagrin, mais votre amour va plus loin que ça. Tous les parents qui connaissent Jésus espèrent que leurs enfants vont prendre les bonnes décisions. Tous les parents qui aiment Jésus prient pour leurs enfants afin qu'ils se convertissent, afin qu'ils marchent avec Dieu. Et les enfants obéissants et responsables apportent à leurs parents une fierté et une satisfaction sans limite. Mais qu'est-ce qui se passe Si les enfants qui ont été instruits par des parents fidèles et aimants, qu'est-ce qui se passe s'ils s'égarent, s'ils deviennent rebelles? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Parce qu'ils connaissent tout, ils ont tout entendu. Est-ce qu'il y a encore un espoir? Le chagrin des parents qui ont des enfants rebelles, il est presque inconsolable. Souvenez-vous du troisième fils du roi David, Absalom, qui était même jusqu'à tuer son propre frère, qui ensuite a mené une rébellion contre son propre papa. C'est épouvantable. Et un jour, il y a un homme du nom de Joab qui a tué Absalom. Et le roi David a pleuré, il a exprimé une tristesse terrible. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom !» Il gémissait. « Mais que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils ?» L'amour paternel, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Cet amour, il est aussi visible dans la parabole du fils prodigue. Quand le fils rebelle revient au foyer, après avoir gaspillé son héritage, et c'est ce que font les enfants qui foulent aux pieds l'enseignement que leurs parents leur ont donné au sujet de la foi, de l'honnêteté, de la droiture. Ils gaspillent leur héritage en menant une vie dissolue. Eh bien, le père, il a tué le veau gras. Il a dit, ne fallait-il pas se réjouir, mon fils qui était perdu, voici, mon fils qui était mort et vivant, il est retrouvé, c'est formidable. Frères et sœurs, et vous les parents qui pleurez, bien que certaines brebis errent aujourd'hui, rappelez-vous, le bon berger a toujours un regard sur eux. Ne serait-ce que à cause des alliances que vous avez passées et des scellements que vous avez faits spirituels sur vos enfants, des scellements familiaux. Tôt ou tard, mes frères et sœurs, ils sentiront la main divine se poser sur eux et les ramener au troupeau. Ils reviendront, je vous le dis, ils reviendront. Leur chemin est connu du bon berger, il les surveille, mais ils auront des comptes à régler. Ils auront des dettes, ils ont des dettes et ils doivent à la justice et la justice ne va pas céder. Ils vont devoir payer, ils souffriront pour leurs péchés. Ils devront se débattre dans des ronces, mais s'ils finissent par se repentir, comme le fils prodigue, alors leurs douloureuses expériences auront au moins servi à quelque chose, ça n'aura pas été vain. Donc, continuez à espérer, continuez à prier, ne faites pas que de pleurer. Le repentir, ce n'est pas simplement demander pardon. Très souvent, avec les enfants, on veut qu'ils demandent pardon, mais on ne leur explique pas qu'est-ce que c'est le sens du repentir véritablement. Le fait de se repentir, ça ne purifie pas le pécheur. Le fait de se repentir, ça ne sanctifie pas le pécheur. Vous avez des jeunes qui demandent pardon à Dieu, mais ça ne les purifie pas. Ça ne les sanctifie pas. Le pouvoir qui permet d'obtenir ces choses, la purification, c'est la grâce. Le pouvoir est dans la grâce de Dieu, dans la miséricorde, dans les mérites de Jésus, et non pas dans le fait de se repentir. Le repentir, c'est ce qui donne accès à ce pouvoir. Au pouvoir de la grâce de Dieu. Le repentir, c'est plus que simplement demander pardon, c'est un changement fondamental de direction dans la vie. C'est ça qu'il faut expliquer aux enfants. Et c'est une transformation de personnalité. C'est pas simplement pleurnicher un moment en espérant que bon, on va avoir la paix dans 10 minutes. Le repentir, c'est crucial pour atteindre notre potentiel divin. Pour chacun d'entre nous, c'est comme ça. Vous voyez, le repentir, ce n'est pas simplement l'abandon des péchés passés, c'est pas seulement ça, c'est aussi la renonciation au péché comme mode de vie. Et le repentir, c'est aussi son remplacement par un mode de vie divin. Il y avait un mode de vie péché, on change de mode. Mode de vie divin. Sinon, c'est pas un repentir. C'est un machin catholique. On va, on dit, voilà, j'ai péché, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Bon, on ferait 3 patères, 5 navets. Vous voyez? Et puis on recommence. C'est le renoncement au péché comme mode de vie et c'est le remplacement par un mode de vie divin. Ce mode de vie divin, il est caractérisé par le rejet de la vieille nature humaine corrompue et par une quête, la quête de la sainteté. C'est ça le vrai sens du repentir. Il faut l'expliquer. C'est vital de le comprendre. C'est vital, pas seulement pour vivre ici, mais pour vivre notre éternité. Et il faut donc enseigner ça, il faut être sûr que nos gamins ont compris. Le pardon des péchés n'est pas le seul but du repentir. Le repentir, c'est le chemin du perfectionnement de notre obéissance. Je répète, le repentir, c'est le chemin du perfectionnement de notre obéissance. Par conséquent, le repentir, c'est l'acquisition d'une personnalité de disciple de Jésus-Christ. Vous comprenez ? Alors, il faut prier pour vos enfants qui sont insouciants, qui ne se rendent pas compte. Vous, la plupart des adultes ici, vous avez goûté au péché avant de venir à Jésus. Et vous savez qu'il y a une part de plaisir dans le péché. On ne peut pas le cacher. Et eux, ils n'ont pas trop connu ça parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Et ils n'ont pas trop connu ça. Ils ont envie de savoir. Ça brille, ça a l'air très joyeux, tout ça. Mais mettez-les en garde. Ils sont insouciants. Ils ne se rendent pas compte. Mais c'est normal, ils n'ont pas goûté. Mais ils ne sont pas obligés de goûter. Ils ne sont pas obligés. Accrochez-vous à eux avec foi. Continuez à espérer. Continuez à avoir confiance jusqu'à ce que vous voyez le salut de Dieu venir habiter dans leur cœur. Frères et sœurs, je vais vous révéler un mystère ce soir. Tous les prédestinés au salut seront sauvés, mais certains devront payer cher après leur mort. Déjà, certains payent cher ici-bas. Il y en a qui font de la prison. Il y en a qui tombent malades à cause de leur péché. Mais la Bible nous dit dans Luc 12, 47 qu'après la vie, certains seront battus d'un grand nombre de coups dans le séjour des morts, dans le mauvais côté du séjour des morts. Des enfants nés dans des familles chrétiennes, après avoir vécu leur vie de dissolution, après avoir perdu le bon chemin, mourront dans cet état-là, iront dans le mauvais côté, et ils seront frappés de nombreux coups. Ce n'est pas Jésus qui va leur donner des coups. C'est que là-bas, dans le séjour des morts, on se bat. Il y a des mauvais esprits, des esprits de mort, des esprits de violence, des esprits de toutes sortes, et ils vont prendre une raclée. Toutes les raclées que vous n'avez pas données parce que, oh non, la loi française nous interdit de donner une raclée aux enfants. Eh bien, ils les prendront dans le séjour des morts. Ceux qui auront reçu une éducation chrétienne et se seront détournés de Dieu seront jugés sévèrement et recevront un grand nombre de coups dans le séjour des morts. Je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement ils souffriront ici-bas, mais encore ils souffriront dans le séjour des morts. Jusqu'à ce que leur dette soit payée. Et ça peut prendre des milliers d'années. Nous, on se fait baptiser pour les morts, mais n'imaginez pas que les morts pour lesquels on se fait baptiser aujourd'hui sortent aujourd'hui. Non. Chacun en son temps. Il faut que la justice soit faite. S'ils ne sont pas au bénéfice de la justice de Jésus mort sur la croix, ce sera une autre justice. Parce qu'il faudra qu'ils payent le châtiment de leur transgression et qu'ils soient purifiés. Alors, ils recevront une récompense selon les bonnes œuvres pratiquées ici-bas sur terre. Parce qu'ils sont héritiers du salut. Parce qu'au trône blanc, quand le livre de vie sera ouvert, leur nom sera dedans. Peut-être. S'ils sont prédestinés. Alors, que de souffrances il pourrait éviter en se tournant vers Dieu déjà ici-bas, mais voilà, ils vilipendent leur héritage. Comme le fils prodigue, il a vilipendé son héritage. Il a fait n'importe quoi avec n'importe qui. Et puis, ben voilà, puis un jour il s'est retrouvé, il n'avait plus rien. Et il s'est souvenu, ouais, mais à la maison du Père, c'était quand même bonnard. Donc il est revenu. Mais mes frères et sœurs, écoutez bien cette phrase, la miséricorde ne volera jamais la justice. La miséricorde ne dérobera pas la justice. La miséricorde ne dérobera pas la justice. Ça veut dire que ce qui est juste est juste. Ils devront payer. Miséricorde, oui, mais payer quand même. Et le scellement des enfants à leurs parents fidèles ne pourra jamais réclamer les enfants qui sont égarés sans leur repentir. Impossible. Impossible. La justice de Dieu doit être satisfaite. Sinon, tout ça, c'est une blague. C'est une farce. Oh, Dieu est amour. Oui, mais il est juste aussi. Et on ne se moque pas de la justice de Dieu. La justice de Dieu doit être satisfaite. Elle l'est si nous sommes au bénéfice de la justice de Jésus, si Jésus-Christ est notre justice. Mais si quelqu'un veut marcher dans la rébellion, veut goûter au péché, voir ce que c'est dans le monde, eh bien, il n'est plus au bénéfice de la justice offerte par Jésus, et il va devoir payer pour toutes les fautes qu'il commet, parce que la justice exige cela. Regardez par exemple, nous les parents, si un enfant nous raye la voiture ou nous bousille quelque chose, eh bien, s'il vient et qu'il confesse sa faute, qu'il dit « Papa, voilà, je fais ça », eh bien, qu'est-ce qui se passe? On garde notre calme, hein, autant qu'on peut, et puis on pardonne. Mais un enfant peut s'attendre à une sévère correction, une sévère punition s'il essaye de masquer la vérité. S'il essaye de cacher en faisant croire que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a fait ça, hein, ou c'est pas ma faute, ou on m'a influencé, etc. S'il essaye de masquer la vérité, s'il continue d'enfreindre les règles de la famille, eh bien, et surtout s'il manque de respect à sa maman, alors là, le père ne supporte pas ça. Et il va punir l'enfant. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Nous sommes créés à son image. Le Père céleste punira l'enfant qui enfreindra ses règles, qui essaiera de maquiller la vérité, et surtout qui manquera de respect à l'Église, la mère. L'Église, c'est la mère, spirituellement parlant. Et alors là, la punition, elle est assurée. La miséricorde ne volera jamais la justice. Comme il disait, non, je ne vais pas le dire. Mais Raphaël, il avait une phrase terrible à ce sujet-là, je ne vais pas le dire. Vous voyez, vous les parents, sans même parler du châtiment de Dieu, si vous ne disciplinez pas vos enfants, la société risque de le faire d'une manière qui ne vous plaira pas du tout. Discipliner les enfants, ça consiste en grande partie à leur apprendre à travailler. Une des plus grandes valeurs, c'est la vertu du travail honnête. La connaissance sans le travail, ça ne sert à rien. Et la connaissance avec le travail, ça fait le génie. Et si vous êtes un enfant rebelle, je m'adresse à vous, je vous supplie de retourner vers vos parents, même si vos parents n'ont pas été à la hauteur, même si vos parents n'ont pas été ce qu'ils auraient dû être. Revenez vers vos parents, c'est l'ordre établi. Pardonnez-leur s'ils n'ont pas été corrects. Vous les enfants, ne condamnez pas vos parents à cause de leurs imperfections. Je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. Ni votre père, ni votre mère, ni vos grands-parents, ne les condamnez pas pour leurs imperfections, mais plutôt au contraire, rendez grâce à Dieu de ce qu'ils vous ont de ce que Dieu vous a révélé leur imperfection afin que vous puissiez apprendre à être plus sage qu'eux. Parce que je vais vous dire une chose, vous avez vu leur imperfection, mais souvenez-vous que vous avez en vous leur gêne, c'est-à-dire leur tare aussi. Et que les bêtises qu'ils ont faites, vous allez les refaire. Mieux qu'eux. C'est pas ça que vous voulez? Être mieux que vos parents? Tout le monde veut être mieux que ses parents. Moi, je voulais être mieux que mon père. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais on veut tous faire mieux. Et c'est bien, et c'est dans la logique. C'est comme ça dans le plan de Dieu. De génération en génération, ça doit devenir meilleur. Alors, soyez une bonne génération. Mes frères et sœurs, il n'est ni juste, ni gentil de juger les parents consciencieux et fidèles parce que certains de leurs enfants se sont rebellés et se sont éloignés de Dieu. C'est ni juste, ni gentil, ça n'est pas spirituel. Nous devons être attentionnés envers les parents dignes et justes qui ont des difficultés avec leurs enfants. Il faut faire attention à eux et les aimer, les bénir. Ne soyons pas arrogants, mais soyons humbles et reconnaissants si nos enfants ont bien tourné, si nos enfants sont obéissants. Ne soyons pas arrogants. Si nos enfants respectent les commandements de Dieu et suivent les voies du Seigneur, ne soyons pas arrogants en disant, oui, mais moi, moi, je les ai bien élevés. Rappelle-toi, je t'ai dit, les esprits des enfants viennent sur terre et à certains esprits, ils rendraient malheureux n'importe quel parent, qu'il soit chrétien ou pas. Et l'inverse est vrai aussi. Alors ne soyez pas arrogants. Un jour, notre sœur Camélia était dans une église attendant l'heure de la réunion et il y avait une dame qui était là en train de cuver son vin dans un état épouvantable. C'est Camélia qui m'a raconté, c'est pour ça que je le raconte, parce qu'elle le disait partout. Et elle a eu un jugement dans son cœur, elle a dit, ah là là, Seigneur, quelle horreur, mais est-ce possible de se mettre dans un état pareil? Et Seigneur lui a dit, ça pourrait être toi. Remercie-moi que ce n'est pas toi. On peut tous, n'importe qui, on n'a pas à juger. Ça peut arriver à n'importe qui. Et quand vous voyez un enfant qui fait une bêtise, dites, je ne jugerai pas parce que pendant que je juge, il est très très possible que mes enfants ou mes petits-enfants soient en train de faire la même chose en même temps, sans que je le sache. Vous voyez, aux parents qui ont le cœur brisé, qui ont été justes, diligents, qui ont aimé, qui ont prié et qui ont instruit leurs enfants, je dis, et puis que les enfants ont mal tourné, je dis, le bon berger a un œil sur eux. Ne vous découragez pas, arrêtez de pleurer. Ne faites pas comme Rachel qui ne voulait pas être consolée. Soyez consolés. Le Seigneur a un œil sur eux. Dieu connaît et comprend votre chagrin et il y a de l'espoir encore. Trouvez votre consolation dans les paroles prophétiques de Jérémie. Il y aura un salaire pour tes œuvres. Tes enfants reviendront du pays de l'ennemi. Ça, c'est ce que je crois de tout mon cœur. C'est là ma prière. Amen. Jésus, bénis mes frères et sœurs, en particulier les parents qui ont du chagrin à cause de leurs enfants. Merci Seigneur de les bénir, de leur donner de relever la tête, de prendre courage, de ne pas avoir honte et de ne pas recevoir comme quelque chose de vrai les jugements que d'autres chrétiens peuvent porter contre eux, mais qu'ils puissent relever la tête fièrement et dire, Dieu, tu connais toutes choses, tu sais toutes choses, viens au secours de la situation dans laquelle il se trouve. Merci Jésus, merci de bénir chacun et chacune. Merci mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.